France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire oubliée du CLODO, acronyme de Comité liquidant ou détournant les ordinateurs. Au début des années 80, ce groupe mystérieux s'en prend à l'informatique. Philips, Celesi, ICL, National Cash Register. Les cibles sont nombreuses. Derrière ces attaques, un groupe au nom aussi étonnant que détonnant, CLODO donc. Le ton est moqueur, mais l'objectif limpide. Saboter l'informatisation de la société à coups de cocktails incendiaires. Derrière ces attaques, le commando est aussi insaisissable que méthodique. 3 ans durant, il s'infiltre dans les failles de la modernité, frappe les centres de données, défie l'État, les multinationales et l'opinion publique. Alors, qui était-il ? Et pourquoi ont-ils disparu brutalement à la veille de l'année 1984 ? Notre invitée aujourd'hui, Célia Izohar, co-autrice de l'ouvrage « Les Ludites, Luddites en France, résistance à l'industrialisation et à l'informatisation », livre publié en 2010 aux éditions Échappées. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Florence de Talouette, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation David Leprince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Doit être aux alentours de 6h du matin, ce 5 avril 1980. Dans la zone industrielle toute neuve du nord de Toulouse, tout est calme. L'air est froid, la nuit d'encre, seuls les lampadaires décidés à l'eau jaunâtre sur les façades modernes. Mais soudain, avenue des États-Unis, des silhouettes se détachent dans l'obscurité. Elles avancent vite et longent le grillage qui encercle le site de Philips Data System. Arrivée devant une porte latérale, elle s'arrête net. Cette porte s'ouvre sans résistance. Alors un à un, les intrus se glissent à l'intérieur. Le bâtiment avale leur présence sans laisser de traces. À l'intérieur, les visiteurs connaissent leur cible, le cœur du système, des disques durs, des bandes magnétiques, des cassettes, des fichiers administratifs. Ils rassemblent tout dans les sanitaires, aspergent, craquent une allumette, allument le feu. Quelques minutes plus tard, les ombres disparaissent comme elles sont venues. À l'intérieur, le feu redouble. Dehors, la nuit reprend son silence. À 6h45, un programmateur arrivé plus tôt que d'habitude pousse la porte du bâtiment. Une odeur âcre le saisit immédiatement. La fumée lui pique les yeux. Derrière les cloisons, il aperçoit des flammes qui s'agitent. Panique. Il court prévenir les pompiers qui interviennent. Vite. En quelques minutes, l'incendie est maîtrisé. Mais tout est saccagé. Les ordinateurs ne sont plus que des carcasses calcinées. Des années de programme réduits en cendres. Bilan, 2 millions de francs de dégâts. La police arrive aussitôt. Et là, la surprise est totale. Pas une vitre brisée, pas une porte forcée, comme si les intrus avaient eu les clés en poche. Les machines, elles aussi, ont été ouvertes sans résistance, pas un verrou sauté. Albert Louis, le directeur du site, finit par l'admettre. Les clés des machines étaient sur les serrures. Bien, enfin. Mais pour ce qui est du bâtiment, le mystère est total. Comment ont-ils pu entrer ? Sur le plateau d'Antenne 2, un journaliste interroge Stéphane Germain, porte-parole de Philips.
On s'aperçoit aujourd'hui qu'il suffirait d'une dizaine d'incendies comme cela pour paralyser en partie l'économie française. Plus de banques, plus d'assurances, la comptabilité de milliers et de milliers de sociétés complètement bloquées. Il semble bien que ce risque, vous n'y avez pas pensé. Il faut quoi ? Il faut y être 10 centraux ordinateurs qui brûlent et cette partie de l'économie s'arrête. Oui ou non ?
Non, je ne pense pas qu'elle s'arrête.
Si effectivement il y a une vague d'attentats, si cette vague d'attentats continue, qu'est-ce qui se passe ?
Écoutez, j'en sais rien. Tout d'abord, j'ose espérer qu'elle ne continuera pas. Mais en tout état de cause, les entreprises ont toutes des procédures de sauvegarde en ce qui concerne leurs fichiers informatiques.
Des doubles. Bien alors, voilà pour les destructions qui sont relativement faciles finalement, parce qu'il n'y a pas que les attentats, il y a les coupures de courant, il suffit de passer un aimant sur une bande, des inondations, des tas de choses comme ça.
Oui,
c'est quand même assez fragile tout ça.
Disons que ce qu'on peut prévoir, c'est bien sûr l'incendie. Ça, c'est très fréquent. C'est pourquoi la plupart des entreprises utilisent des coffres ignifugés et en général ont même des copies de leurs fichiers dans un coffre à la banque.
Bon, alors, voilà pour les destructions. Maintenant, il y a un autre problème, c'est la violation des secrets qui sont contenus dans vos informations. Et c'est est particulièrement important aujourd'hui où nous sommes assez facilement fichés et codés. Est-ce qu'il n'est pas extrêmement facile aujourd'hui à quelqu'un de mal intentionné, à un informaticien, de découvrir des secrets et éventuellement des divulgués, étant donné que toutes les informations sont réunies dans un même point?
C'est vrai qu'il y a des fichiers, mais avant ces fichiers, ils étaient tenus manuellement.
Le monde de l'informatique est tout jeune à cette époque. Et cette attaque met le doigt sur des préoccupations souterraines et légitimes. Et s'il suffisait de quelques incendies pour bloquer tout le pays? Et si nos données étaient un jour divulguées? Du reste, les policiers ne prennent pas le problème à la légère. Ils débarquent en nombre, inspectent, interrogent. Qui sont ces hommes ou ces femmes qui ont visé l'entreprise sans histoire, sans conflit social, sans revendication apparente? Une partie de la réponse arrive par téléphone dès le lendemain à l'agence France Presse. Action directe. Le groupe clandestin d'extrême gauche, déjà connu pour ses actions contre l'armée, le patronat et l'État, revendique l'attentat, évoquant une opération de représailles. Un coup pour répondre à une vague d'interpellations de 30 de ses militants fin mars. Mais les policiers restent dubitatifs. En ce début d'année 80, Action directe revendique tout et partout. Ministère de la Coopération à Paris, le 18 mars. Commissariat incendié à Toulouse, quelques jours plus tard. Et maintenant, les ordinateurs. Cette attaque chez Philips n'est-elle pas trop éloignée tout de même de leurs préoccupations? Autre mystère. Les saboteurs d'Action directe, si l'on en croit le communiqué, assurent avoir mis la main sur des documents liés à la défense nationale. Or, le directeur du site est catégorique. Il est exact que nous travaillons pour l'armée, mais nous nous contentons de mettre au point des programmes de gestion et d'approvisionnement ou des stocks de pièces détachées. Bref, rien de stratégique, pas de données, jure-t-il. Non, juste des programmes pour faciliter la logistique. Les policiers privilégient alors la piste d'une action menée par un concurrent de Philips. Mais là encore, le directeur balaye l'idée. Entre rivaux, on se fouille les poubelles. Certes, on n'en est pas à se mettre le feu à la baraque. Non. Pour lui, ce ne sont pas des voleurs lambda. La preuve, il y avait deux caisses de champagne dans mon bureau, affirme-t-il, elles sont restées intactes. Alors, si ce n'est pas un cambriolage ni une vengeance industrielle, de quoi et surtout, de qui s'agit-il? L'enquête remonte au service régional de la police judiciaire de Toulouse et jusqu'à la Cour de sûreté de l'État. À 20h, le même jour, un groupe au nom farfelu transmet un communiqué à Libération qui éclaircit quelque peu le mystère.
Nous ne voyons pas l'intérêt des communiqués quand les actes parlent d'eux-mêmes. Mais certains ont eu la légèreté de revendiquer une opération dont ils ne sont pas les auteurs. Nous sommes des travailleurs de l'informatique, bien placés pour connaître les dangers actuels et futurs. L'ordinateur est l'outil préféré des dominants. Il sert à exploiter, à ficher, à contrôler, à réprimer. Demain, la télématique instaurera 1984. Après-demain, l'homme programmé, l'homme-machine. C'est contre cela que nous luttons. Nous ne sommes ni le bras armé du prolétariat, ni des militants purs et durs, encore moins le noyau d'une organisation à vocation hégémonique. Nous ne sommes ni cubains, ni libyens, ni martiens. Presque insoupçonnable, en tout cas insoupçonné. Et puisqu'il faut signer, comité liquidant ou détournant les ordinateurs.
Le propos est clair, presque clinique. Le CLODO, comité liquidant ou détournant les ordinateurs, donc, lutte contre l'avènement de la société informatisée. Dans la suite des communiqués, et pour lever toute espèce de doute, les auteurs demandent à la police de vérifier quelques détails. Il suffit, disent-ils, que le directeur du site confirme la présence, par exemple, d'une cartouchière et d'un catalogue Rolls-Royce dans le tiroir gauche de son bureau. Ainsi que la disparition d'un dossier à couverture orange, nommé l'affaire Rodot-Borel. Le lendemain, la dépêche titre « La cartouchière était bien dans le tiroir ». Albert Louis confirme l'absence du dossier orange et il explique « Le nom de Borel ne figurait pas sur la couverture du dossier, mais seulement à l'intérieur, à une seule fois ». C'est donc que ces gens ont lu le dossier intégralement. Ils doivent toujours l'avoir. Ce serait sympathique de leur part de me le restituer. Voilà donc les preuves irréfutables, s'il en fallait, que l'attentat n'est pas l'œuvre de n'importe qui. Ou plutôt si, d'un groupe que personne n'a jamais vu. L'attaque en rappelle étrangement d'autres qui ont eu lieu en région toulousaine. En novembre 1979, le groupe police pour... Parti ouvrier libertaire internationaliste communiste et étudiante publier des documents dérobés dans un commissariat. En février 80, Printafix, acronyme 2. Pour récupérer intégralement notre TVA à la face des ignobles exploiteurs, publie la fiche d'un voleur pris la main dans le sac 2 semaines plus tôt dans un supermarché. Toujours en février, à Toulouse, les serrures de toutes les agences d'intérim sont sabotées dans une action coordonnée. Revendication, le parti du refus du travail. Ici, le clodo reprend l'usage d'un nom en forme de sigle détourné, mais s'attaque à la marche triomphale de la France vers le numérique. Un nouveau combat contre un mouvement lancé en 66 par le général de Gaulle avec le plan calcul.
La première pierre du plan calcul a été posée hier matin au ministère de l'Économie et des Finances. C'est en effet hier matin qu'a été signée la convention qui lie l'État à la Compagnie internationale pour l'informatique en abréviation C2I.
Ce protocole, ou plutôt cette convention, répond à un objectif très précis. Avoir une forte industrie nationale capable de construire des ordinateurs. Pourquoi ? D'abord parce qu'aucune nation industrielle ne peut se développer dans les années à venir sans informatique, c'est-à-dire sans ordinateur. Et qu'il est bon en ce domaine qu'un pays comme la France recherche son indépendance et puisse affronter la concurrence.
De Gaulle ouvre la voie, Pompidou embraye, Giscard accélère. Le plan calcul est lancé comme on lance une fusée. Objectif, ne pas laisser le champ libre aux Américains. Alors, les investissements explosent. Les centres informatiques fleurissent. Le nombre de salariés dans le secteur passe de quelques milliers dans les années 50 à plus de 300 000 en 1980. L'informatique devient une affaire d'État, une priorité nationale. Et tout le monde s'aligne. Syndicats, patrons, ingénieurs, philosophes. Le numérique, c'est l'avenir. Le progrès est en marche, inéluctable, jusqu'au grain de sable. En 1974, un journaliste du Monde révèle l'existence d'un projet, Safari, un programme du ministère de l'Intérieur visant à interconnecter tous les fichiers administratifs à partir du numéro INSEE. Nom, impôts, sécu, éducation, police, tout est relié, centralisé. Alors l'opinion s'embrase. Le titre de l'article fait date. « Safari ou la chasse aux Français ». Pour la première fois, l'expression « société de surveillance » entre dans le débat public. Et le scandale est tel que le gouvernement recule. Giscard enterre donc Safari et met sur pied ce que deviendra la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL. Mais la confiance est rompue. Alors, pour apaiser les esprits, Giscard organise en mars 79 un colloque sur le sujet intitulé « Informatique et société ». Pendant plusieurs jours, experts, industriels, philosophes, tous débattent sous les dorures du palais de l'UNESCO. Et c'est Giscard lui-même qui clôt les échanges.
Il faut savoir que l'excès d'information conduit à la désinformation, à l'indifférence et au scepticisme. Un mauvais usage de l'informatique et de la télématique peut accentuer le désarroi de l'homme contemporain en plaçant sous son regard trop de signes, en faisant miroiter devant lui trop de connaissances fugitives. Il faut y prendre garde. Un grand effort doit être entrepris sans tarder pour que chacun puisse maîtriser, puisse contenir l'usage de la machine.
Sur le moment, le discours porte. Le climat se calme. Le gouvernement a repris la main. Mais pas pour tout le monde. À Toulouse, bastion des luttes, ça bouillonne encore. Depuis la fin des années 60, la ville est un carrefour pour les luttes militantes et les réseaux d'extrême-gauche. La cité des Violettes devient refuge et un point de passage pour de nombreux exilés politiques, des anti-franquistes espagnols, des autonomes italiens. Les groupes d'action révolutionnaire internationalistes y trouvent également un terrain d'accueil. On y imprime, on s'y planque, on s'y entraîne parfois. Alors que des attentats contre l'informatique éclatent ici, rien d'étonnant, le terreau est fertile. Pourtant, dans la presse, on se moque des méthodes du clodo. On les trouve bricolées, presque inoffensives. En tout cas, bien loin de la terreur organisée des années précédentes.
Un sigle volontairement dérisoire, une volonté d'utiliser le spectacle en dénonçant les points sensibles de notre société, les éventuelles limites de sa liberté et le mélange bien pesé d'humour et de violence. la nouvelle contestation a abandonné délibérément les chemins de la politique, de l'idéologie et des programmes. Une telle démarche ne se rattache pas à une protestation construite et globale. Pour alerter l'opinion publique, elle rejette l'attentat meurtrier, préférant entretenir un climat empoisonnant. Avec le CLODO, C-L-O-D-O, ou n'importe quelle autre ligue du même genre, on est apparemment bien loin des brigades rouges italiennes.
Deux jours seulement après l'attaque contre Philips, dans la nuit du 8 au 9 avril 1980, le CLODO frappe de nouveau. Sur l'avenue Honoré-Serre, toujours à Toulouse, la porte électrique de la C2I, fleuron national de l'informatique, s'ouvre sans résistance sous la main du CLODO. Les silhouettes s'engouffrent, sûres de leur chemin. Dans le hall, leurs gestes sont précis. Les armoires sont vidées, les bandes et les cassettes empilées comme pour un sacrifice. Puis vient l'étincelle et en quelques secondes, les flammes avalent les dossiers, lèchent les murs, dévorent les machines. À quelques mètres, le veilleur d'un garage perçoit la clarté rouge. Il compose fébrilement le numéro des pompiers, mais quand les lances à eau sont activées, l'édifice n'est déjà plus qu'une carcasse noire. Trop tard. Le cœur du centre est touché. Un ordinateur 61 DPS, fleuron du traitement de données, gît sous forme de masse noircie, méconnaissable. Dans le centre de démonstration du petit système, il ne reste plus rien. Au sol, 30 cm de cendres et de plastique ont fondu. Au plafond, des plaques éventrées laissent pendre des canalisations d'où suinte un liquide noirâtre, mélange d'eau et de suie. Apocalypse Now, s'enflamme un journaliste du matin. Enfin, s'enflamme, si je puis dire. Toujours est-il que la méthode ici est aussi efficace que chez Philips. Action directe encore, revendique l'attentat et détaille la méthode employée. Un cocktail Molotov composé d'acide sulfurique, d'une pastille de chlorate et d'essence, placé dans une bouteille de bière Kronenbourg. Sauf qu'aucun fragment de bouteille n'est retrouvé sur place. Dans Libération, un communiqué du CLODO arrive bientôt. Le groupe décrit précisément les lieux, les méthodes et les dégâts. Tout y est. Il ne fait plus de doute, ce sont encore eux. Et dans la presse, on s'inquiète.
Les saboteurs en col blanc ont remplacé les plastiqueurs. Les techniciens d'aujourd'hui sont les James Bond d'hier. Non. Ce n'est pas le récit palpitant d'un roman de science-fiction que l'on pouvait lire à la une de tous les quotidiens ces derniers jours. Le sabotage des deux sociétés informatiques, effectué de l'avis même des enquêteurs par de véritables professionnels, annonce incontestablement la naissance d'une nouvelle forme de terrorisme. Un tournevis, un aimant, un simple trombone, du feu et quelques notions d'électronique suffisent désormais pour effacer la mémoire de l'ordinateur. Imaginez demain une solide organisation qui déciderait de s'attaquer simultanément au centre stratégique de notre pays et toute l'économie de la nation se verrait soudain plongée dans une pagaille monstre qui pourrait très bien lui être fatale. Pas d'effusion de sang, seulement une poignée de techniciens déterminés ou intelligemment manipulés. La révolution de demain serait-elle au bout d'un tournevis ?
Les services spécialisés se mettent en mouvement. La rédaction de Terminal, revue technophobe, reçoit la visite de la police. Les enquêteurs cherchent des pistes, des réseaux, des affinités. Alors ils interrogent, notent, mais repartent bredouille. Quelques jours plus tard, le 10 avril, le journal La Dépêche reçoit un appel. Un attentat se prépare chez IBM, le géant américain de l'informatique installé à Toulouse. Place Occitane, les policiers arrivent en urgence. Ils fouillent les étages, inspectent les sous-sols. Pompiers, artificiers, chiens renifleurs, toute la panoplie est déployée. Mais rien, fausse alerte. Chez les professionnels de l'informatique, c'est la panique. En quelques jours, la ville est passée de l'insouciance à la paranoïa. Des vigiles surgissent devant chaque porte. Les centres informatiques sont désormais gardés comme des ambassades. La présence invisible du CLODO fait bugger les esprits.
Scotland Yard, CIA and KGB control the data memory.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le mystérieux Clodo.
Affaires Sensibles.
Affaires Sensibles. Affaires Sensibles. Affaires Sensibles.
Fabrice Drouel.
Toulouse, 20 mai 1980, 5h du matin. Des intrus passent par le toit de l'International Computers Limited, une entreprise britannique spécialisée dans la maintenance de gros systèmes informatiques, dont les locaux sont en bordure du canal du Midi. Ils desserrent deux verrières, glissent dans les bureaux, sans précipitation, fouillent méthodiquement, repèrent le local des pièces détachées, entassent disques durs, circuits imprimés, bandes magnétiques, et déclenchent deux foyers d'incendie. Le premier dans les toilettes, dégâts minimes, juste de quoi noircir les panneaux syndicaux de la pièce voisine. Le second, plus destructeur, dans le local de stockage. Et là, tout brûle. Les plâtres tombent, une verrière éclate, il ne reste que des cendres. Troisième attentat en 6 semaines contre une société du secteur informatique, ça fait beaucoup. Quand les pompiers arrivent, ironie de l'histoire, la caserne est juste en face, il est déjà trop tard. Dans les gravats, des claviers fondus, des restes de bandes calcinées, des terminaux méconnaissables. À l'extérieur, une fontaine bordée de cadavres de machines. Et dans les couloirs, un informaticien commente, consterné.
C'est le plus gros brasier allumé jusqu'ici. Heureusement, ICL avait pris les mesures de sécurité pour sauvegarder les fichiers. Ce sont des gens qui sont contre l'informatique. Décidément, 1984 leur est resté en travers de la gorge. Bien sûr, nous travaillons pour une multinationale anglaise. Mais vous savez, j'aimerais bien qu'on me donne la possibilité de travailler pour une entreprise française.
Sur les murs, deux slogans sont tracés au fusain. Non à l'informatique, non à Big Brother en Irlande. Signé Clodo. Clodo semble s'élever contre la présence des Anglais en Irlande et compare la puissance britannique à celle du Big Brother, imaginé par George Orwell dans son roman 1984. Une figure de domination totale, omniprésente, qui surveille et contrôle tout. Dans la presse, si le lien avec 1984 de Orwell semble évident, très vite, un autre parallèle s'impose. Les Luddites, ou Luddites, ces ouvriers anglais du début du 19e siècle, devenus célèbres pour avoir brisé des machines à tisser en pleine révolution industrielle. Deux siècles plus tard, les membres du Clodo regardent les ordinateurs comme d'autres regardaient les métiers jacquards, des instruments de dépossession. Les activistes de Toulouse semblent s'inscrire dans cette tradition des insoumis aux machines. Résultat, pendant l'été 1980, les attentats s'enchaînent, se répondent et parfois se superposent. Si le Clodo frappe, il semble avoir fait des émules. Le 23 juin à Toulouse, les bureaux de l'Université des sciences, où doit se tenir un grand symposium sur la cybernétique, sont saccagés. Mais cette fois, ce n'est pas le clodo qui signe. C'est un autre nom, inconnu jusqu'alors, Belle, écrit au féminin. Une première apparition, une seule. Pendant ce temps, à Louveciennes, c'est la société C2I, encore, qui échappe de peu à la destruction. Un engin explosif de 8 kilos, placé contre un transformateur EDF, ne se déclenche pas. Sur les murs, deux slogans, « Halte au nucléaire, non au fichage ». Signé Clodo. En septembre à Paris, le salon du CICOB, le grand rendez-vous annuel de l'informatique français, s'ouvre dans un climat d'angoisse. Quelques jours plus tôt, en effet, la société Capsugeti, pionnière dans le traitement automatisé des données, a été la cible d'un nouvel attentat. Deux bureaux incendiés, les listings, les cartes perforées, les papiers, au feu. Griffonné au feutre vert sur un mur, un message, le clodo persiste et signe « Joyeux CICOB ». Alors les policiers désespèrent. Tant qu'on ne les prendra pas la main dans le sac, ils pourront continuer, résume un commissaire du SRPJ. C'est vrai que la menace est diffuse, insaisissable. Des autonomes incendient des facs, des groupes fantômes s'invitent dans les symposiums et le clodo continue son travail de sape. Alors on pense que ce n'est que le début. Mais en janvier 81, tout s'arrête. Le clodo disparaît comme il est apparu, sans bruit, plus rien. Pourquoi ces attentats cessent-ils soudain à la fin de l'année 80? Le clodo a-t-il été dissous? Est-il en sommeil ou tout simplement occupé ailleurs? L'hypothèse la plus sérieuse conduit quelques kilomètres plus loin, dans le Tarn-et-Garonne.
Golfech, dimanche après-midi, pour la troisième fois en une semaine, anti-nucléaire et forces de l'ordre s'affrontaient sur le site de la centrale nucléaire. Des attentats revendiqués par des groupes inconnus jusqu'alors ont été perpétrés, mais pour les antinucléaires, la responsabilité est du côté du gouvernement.
Combien de morts il faudra peut-être pour arrêter la centrale? On en est là, c'est un rapport de force qui risque de tourner mal.
Pour vous, c'est aussi la démocratie qui est en cause?
Absolument, la démocratie est autant en péril que sous le temps de Giscard, et même pire, parce qu'on est trahi. On n'attendait rien du gouvernement Giscard, que là on attendait quelque chose du gouvernement de Mitterrand et Mauroy. Et vraiment, c'est le coup de poignard dans le dos.
Depuis l'année 1979, à Golfech, l'État projette la construction d'une centrale nucléaire. La contestation s'organise. Sabotage d'engins de chantier, lignes électriques sectionnées, mairies vandalisées. Un attentat par mois, parfois un par semaine. Des plus violents jusqu'aux plus insolites. C'est ainsi qu'en juillet 81, Toulouse assiste à un happening étrange. La statue de Jean Jaurès disparaît, volatilisée. Personne ne sait qui l'a enlevée, ni pourquoi. Deux ans plus tard, coup de théâtre, la presse reçoit un appel anonyme. Une voix calme annonce. Un homme politique de gauche vient de se suicider. Il s'est pendu à l'arbre de la Liberté, place Saint-Étienne. La panique est immédiate. La police est prévenue, mais sur place, une autre scène les attend. La statue de Jean Jaurès suspendue à un arbre devant la préfecture. Et à ses pieds, une lettre signée Jean Jaurès lui-même qui dit « Moi, Jean Jaurès, ne pouvant survivre à cette mascarade, j'ai décidé d'en finir. » Les méthodes employées contre la centrale de Golfech rappellent celles du clodo, mais oui, des actions nocturnes, spectaculaires, ironiques parfois, jamais mortelles, et plusieurs fois, les mêmes explosifs. Alors, le clodo ou ses cousins? Ce qui est sûr, c'est que le feu continue de couver et que la gauche, arrivée au pouvoir en 81, ne calme rien. Au contraire, très vite, elle laisse un goût amer à ceux qui espèrent l'avènement d'un autre monde, sans tenir compte des réalités économiques. Et l'informatisation n'est plus une promesse lointaine. Elle devient concrète, visible, partout. Le recensement national dirigé par l'INSEE en 82 en est la preuve éclatante. Derrière chaque formulaire rempli, une machine attend. Les données sont saisies, codées, croisées, archivées. Ce grand basculement technologique fait l'effet d'une étincelle. Chez les salariés de l'INSEE, c'est la colère. Les dactylos chargés de saisir les données du recensement se soulèvent, dénonçant la surveillance, la mécanisation et la perte de sens de leur travail.
Les claviers ne crépitent plus, les écrans se sont éteints. Le personnel de l'atelier de saisie de l'INSEE à Nantes est en grève depuis 5 semaines. Un phénomène rarissime dans cet organisme qui gère des millions de dossiers. Le Centre national d'exploitation de Nantes se charge en effet d'alimenter trois gros fichiers. L'identification des entreprises, le répertoire des personnes physiques et le fichier électoral. Cette grève risque d'avoir des répercussions sur les prochaines élections car le fichier des incapacités électorales ne sera pas prêt à temps.
D'autres agents recenseurs refusent d'obéir. À Toulouse, ils occupent l'INSEE, puis le siège du Parti Socialiste. C'est alors qu'un mystérieux groupe vole des milliers de fichiers de recensement. Il se fait appeler, évidemment sous forme d'acronyme, l'INSEE, comme les individus négativement sensibilisés aux enquêtes et aux étiquettes. Celui-là est assez bien vu, il faut l'avouer. Dans la presse, c'est une autre musique. On loue toujours plus les bienfaits du progrès. La saison des micro-ordinateurs bat son plein, peut-on lire. L'ordinateur apprivoisé ou encore les Français à la conquête du marché des logiciels. Dans les pages économie, comme dans les suppléments week-end, on encense ces nouvelles machines. Rapides, fluides, intelligentes. Une révolution est en marche et tout le monde applaudit. Mais dans cette euphorie technologique béate, un nouveau coup de tonnerre arrive. À 4h15 du matin, le 27 janvier 83, trois explosions secouent la nuit. Le centre informatique de la préfecture de Haute-Garonne est soufflé. 15 kilos de dynamite. Une charge placée à l'extérieur, évitant ainsi de déclencher la sirène. Dans un pavillon, à quelques mètres de là, un homme sursaute. Le gardien. Il dort avec sa femme. Les volets volent, les vitres éclatent. Il raconte.
J'ai sauté dans mon pantalon et j'ai attrapé mon arme à feu. Mais tout ce que j'ai pu faire, c'est constater les dégâts. Ils n'ont pas trop pensé à nous quand ils ont placé leurs bombes. On aurait pu être touchés, et ma femme était choquée. Heureusement, les enfants n'ont rien. Je savais que ça allait se produire un jour, mais je ne pensais pas que l'attaque viendrait de l'extérieur. Ils ont trouvé la seule attaque qui ne déclenchait aucun signal d'alarme. S'ils avaient tenté de pénétrer dans les locaux, j'aurais été prévenu. Je serais sorti avec mon arme. Je suis entraîné pour...
Et voilà, l'homme a raté son moment d'héroïsme. Quelques heures plus tard, cinq animateurs de Canal Sud, petite radio libre toulousaine, sont placés en garde à vue. Menottés, fouillés, ils sont interrogés toute la nuit. D'abord, ils ne comprennent pas. Et puis, ils font le lien. Mais oui, bien sûr, c'est ça, ils sont en train de préparer une émission sur les fichiers informatiques. Mais enfin, pas de quoi poser une bombe. Mais suffisamment, semble-t-il, pour inquiéter. Ils découvrent alors qu'ils sont surveillés depuis quelque temps. Les cinq animateurs ont des alibis solides, ils sont finalement relâchés. Quelques heures plus tard, le bureau toulousain de l'AFP reçoit une lettre de revendication signée, devinez qui ? Le Clodo, bien sûr.
Cette nuit, une fraction des mémoires étatiques s'est dissipée dans l'atmosphère. Fichiers des infractions, des signalements et des objets, fichiers des véhicules volés, fichiers des cartes grises, fichiers des travailleurs migrants, embryon du fichier antiterroriste. La préfecture de Haute-Garonne a la mémoire qui flanche quand son centre informatique est ébranlé. L'informatique policière symbolise parfaitement ce contre quoi nous nous battons jour après jour. Le spectaculaire n'est pas notre lot, et nombreux sont les patrons qui apprendront que nos négligences et nos bugs coûtent plus cher que les feux et les explosions. La société du zéro défaut, codifiée, quadrillée, alignée, contrôlée, cette société dans laquelle nous vivons est invivable. Et inhumaine.
La mécanique est relancée. Le 26 octobre 83, une bombe explose dans les locaux de Sperry Univac Ordinateur, filiale d'un géant américain de l'électronique, toujours à Toulouse. Deux mois plus tard, dans la nuit du 27 décembre, c'est au tour de la société américaine National Cash Register d'être visée. Installée à l'Union, près de Toulouse, elle est spécialisée dans les caisses enregistreuses et les gros systèmes de gestion. Les flammes ravagent le stock. 30 machines carbonisées. Et sur place, une signature. Clodo and Little Sisters. À quelques jours de l'année 84, les petites sœurs, donc, s'attaquent aux grands frères. L'année se referme, et avec elle, l'histoire du Clodo. Du moins, celle qu'on peut retracer. Car après ces dernières attaques, plus rien. Non, personne ne saura jamais qui a été derrière ce mystérieux commando. Dans leur ultime texte, publié sous forme d'auto-interview dans Terminal numéro 19, les membres du groupe lâchent calmement leur dernière salve.
Pourquoi avoir entrepris ces actions ?
Pour interpeller chacun, informaticien ou non, pour que nous tous réfléchissions un peu plus au monde dans lequel nous vivons, à celui que nous créons, et à la façon dont l'informatisation transforme cette société.
Par leur côté spectaculaire et radical, ces destructions ne vous semblent-elles pas un peu outrées ?
Peut-on imaginer plus banal que de jeter une allumette sur un paquet de bandes magnétiques ? Le geste ne paraît excessif qu'à ceux qui ignorent ou veulent ignorer à quoi servent pratiquement la majorité des systèmes informatiques.
N'êtes-vous tout de même pas un peu rétro, un peu les casseurs de métiers jacquard du 19e siècle ?
Aux outils de pouvoir, les dominés ont toujours opposé le sabotage et le détournement. Il n'y a là rien de rétro, ni de nouveau. Mais nous savons que le retour en arrière est stupide. L'outil informatique est sans doute perverti, mais il pourrait servir à d'autres fins qu'il ne sert.
Ne craignez-vous pas de vous faire prendre ?
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Voilà plus de 3 ans qu'une cour de sûreté de l'État, paix à ses cendres, et quelques dizaines de mercenaires du pouvoir nous recherchent. Leurs moyens matériels, pourtant sophistiqués, sont bien inefficaces. Et notre dernière action contre le centre informatique de la préfecture de Haute-Garonne a dû leur prouver que nous en savions plus sur eux qu'ils n'en savent sur nous. Puisse notre prochain intervieweur ne pas être un juge d'instruction.
Aujourd'hui, les clodos. Notre invitée, Célia Isoar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct des studios d'ici Toulouse, que nous remercions pour leur accueil. Vous êtes journaliste, philosophe, autrice du livre « Les luttes en France, résistance à l'industrialisation et à l'informatisation », livre publié en 2010 aux éditions Échappées. Alors, la peur d'une société de surveillance, Clodo est pile au centre de la thématique. Hein. Comment êtes-vous tombé dessus, sur cette histoire ?
J'en ai entendu parler à Toulouse, mais ça avait un côté complètement légendaire. La seule chose qui se disait, c'est qu'il y avait un comité qui faisait exploser des usines informatiques. Ça m'a paru incroyable. Et donc, je suis allée dans les archives et j'ai cherché et j'ai découvert que, en fait, le clodo faisait la une de tous les quotidiens, comme vous le racontez. Mmh. Et qu'en fait, il y avait deux mystères. Il y avait mais qu'est-ce qui s'est passé autour du clodo et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais le deuxième mystère, c'est qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'on ne s'en souvienne plus ?
Ah bien, répondez à cette question. Pourquoi on ne s'en souvient plus, justement ?
J'ai envie de parler de séquestration mentale. Les années 80, les années entre 1980 et 2000, on est vraiment dans un moment d'euphorie informatique. Et ça coïncide en fait avec le paroxysme de l'hégémonie occidentale. Donc il n'y a plus de critique de la vie quotidienne, la critique anticapitaliste s'est beaucoup amenuisée. Et en fait, on va en reparler, mais on peut assez bien constater que l'informatisation a participé activement de cette régression très 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 importante de la critique sociale et des acquis sociaux de la décennie précédente, de la décennie des années 70. Beaucoup de choses ont été effacées avec cette mémoire.
Qu'est-ce qui a été effacé ? Par exemple, je comprends le concept, mais à travers un exemple qui pourrait nous parler, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
En fait, la critique de l'État et de la bureaucratie était vraiment très très importante dans la décennie 70. Il y avait différents mouvements, qu'ils soient syndicaux ou libertaires, qui contestaient la dimension technocratique du pouvoir. Mmh. Et donc, ils considéraient que il fallait pas seulement se battre pour des salaires plus élevés, pour un niveau de confort plus élevé, mais que il fallait absolument pas amplifier l'asymétrie entre les États, les administrations et les individus, les communautés. Parce que cette asymétrie, elle pouvait coûter très très cher. Et en fait, l'un des problèmes que pose le clodo, avec beaucoup de pertinence, c'est de dire l'informatique est en train de renforcer de manière démesurée le pouvoir des États et des administrations ou des entreprises. Et ça, c'est dangereux.
Mmh. Alors ça, c'est la thématique de la surveillance, c'est ça ? Qu'est-ce qui pointe derrière ça ? Alors, il y a deux choses. Il y a deux craintes. Hein. On le voit bien dans le récit. Il y a la crainte de la société de surveillance. Et puis, peut-être, c'est pas la crainte la plus importante, mais quand même du bug, du grand bug. Un peu comme au Moyen-Âge, on avait peur de la fin du monde. On a aussi peur du grand bug. Mais revenons, c'est plus important, me semble-t-il, sur le message du Clodo, la société de surveillance.
Alors, l'informatique a souvent été critiquée par rapport à ça, la société de surveillance. Et c'est l'une des critiques qui est portée par le Clodo.
Ah oui.
Mais c'est pas la seule. Parce que la surveillance, ça n'est qu'un des phénomènes, en fait, de cette maîtrise, enfin, de cette mainmise plus générale que l'informatisation va créer sur la vie, notamment la vie des travailleurs. Et eux, ils se définissent comme des travailleurs de l'informatique. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y avait des travailleuses dans le groupe. Et cette mainmise, c'est aussi le capital, en fait, le patronat, qui s'empare du travail et qui décide comment le travail doit être fait. Et ça va au-delà de la surveillance. C'est-à-dire, par exemple, à la même époque, et le Clodo le sait manifestement, il y a des mobilisations très importantes des travailleurs et des travailleuses sociales. Pourquoi ? Parce que l'informatisation, pour eux, pour elle, ça veut dire on va vous trouver un logiciel qui va vous dire exactement comment vous devez faire.
Oui.
Et donc l'informatique, c'est en fait la négation de leur qualification et la négation d'un travail relationnel qui n'est pas quantitatif.
Et ces gens-là qui doivent être encore en vue aujourd'hui, j'imagine, je me demande quelle est leur réaction devant l'intelligence artificielle.
Eh oui.
Parce que là, pour le coup, c'est un morceau de choix. Hein.
En fait, nous vivons le cauchemar du Clodo. Nous vivons la dystopie consommée de ce comité. Puisque finalement, je vous parlais de ces deux décennies-là, 1980-2000, et c'est vraiment ce qui a permis de mettre en place tout ce que nous subissons aujourd'hui, dont l'intelligence artificielle, qui vraiment comme disait le Clodo, nous transformer d'artisans en manœuvres, nous autres par exemple, les journalistes ou les auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, cette déqualification, cette dépossession des savoir-faire par la machine, elle a grimpé l'échelle sociale.
Bien sûr. Alors pour l'instant, il y a quelque chose d'un peu rassurant, parce que vous me parlez de ça, j'ai regardé il y a quelques jours un documentaire sur une plateforme télé, et c'était sur les Beatles, et alors j'entends une voix qui dit, au lieu de dire Lennon, qui disait Lénine, qui disait I'm the walrus, c'était I'm the walrus, et puis ça s'arrêtait là, je me dis soit c'est un débile, soit c'est autre chose. Et j'ai compris que c'était l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, parfois dans l'intelligence artificielle, il y a plus d'artificiel que d'intelligence, mais ça ne peut pas durer.
Alors effectivement, ce que nous rappelle aussi le Clodo, c'est qu'il ne faut pas prêter trop de puissance à ces machines. Et eux, finalement, là où leurs interventions ont quelque chose de très salutaire et reconnu comme tel apparemment par un certain nombre de personnes, de commentateurs autour, c'est que ils disent « bon, bah, l'ordinateur, ça n'est qu'un tas de ferraille ». Et en fait, ils s'en prennent activement aussi au fétichisme, à la fétichisation de la technologie. C'est-à-dire le fait de considérer que ces objets sont tout-puissants, sacro-saints, que ces objets sont détenteurs d'une puissance de résolution de tous les problèmes, qui sont détenteurs de l'avenir, qui sont dépositaires du progrès. Et bon, bah, le Clodo les remet à leur place, déjà en les cassant. En fait, casser des machines, pour le Clodo, ça n'est pas un problème. On ne fait de mal à personne. On ne fait aucune victime.
Et alors, j'ai envie de vous poser une question. Le jour où vous perdez votre téléphone, est-ce que vous êtes en panique?
Alors, la dépendance s'est mise en place. Et elle... Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, mon ordinateur ne s'allumait plus. Et j'ai trouvé ça très drôle que ce soit quelques heures avant de parler des méfaits de l'informatique. Mais en fait, on vit une mise sous dépendance qui ne cesse de s'amplifier et qui est en fait proportionnelle à la puissance des multinationales de l'informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on paye la concentration de puissance et de richesse que les GAFAM ont accumulée pendant les années 2000.
Et oui, bien sûr, il y a aussi cette dimension-là. Hein, par ici, la bonne affaire. Évidemment.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Célia Isoar, je vais vous poser une question à laquelle vous n'échapperez pas. Vous avez peut-être pensé que vous y avez échappé, mais non. Est-ce que vous avez une petite idée, vous, de qui se cachait derrière le clodo?
Je n'ai pas d'idée précise, malheureusement. Je n'ai pas pu ni les rencontrer, ni les contacter, mais j'ai travaillé à partir d'archives. Mais ce qui est évident, c'est qu'ils ou elles font partie intégrante du tissu du mouvement autonome toulousain de cette époque. Et que, en fait, ce sont des travailleurs, comme ils disent, de l'informatique, mais ce sont peut-être aussi des militants des mouvements homosexuels, des militants des mouvements contre les prisons, des militants des groupes féministes qui travaillent sur la contraception à l'époque. Ce sont peut-être aussi, comme vous l'avez dit, des gens qui font des manifestations et des attaques à l'explosif contre la centrale nucléaire de Golfech à l'époque. Mmh. C'est assez probable. Donc tout ce tissu toulousain très 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 riche qui est à la fois l'héritier, le continuateur de l'antifranquisme, l'héritier des mouvements de la résistance, l'héritier des mouvements de 68, hein, c'est vraiment la queue de comète de 68. Mmh.
Alors, quand on s'attaque à un gros système, l'une des méthodes, c'est d'employer les armes des gros systèmes. Et depuis les années 2010, on parle beaucoup de hacker éthique, de lanceur d'alerte, de désobéissance numérique. Est-ce qu'on peut dire que cette population-là, quelque part, est descendante du clodo?
Alors, pour moi, le clodo est au croisement de deux traditions politiques. Et ils le disent d'ailleurs très bien dans leur titre, le comité liquidant ou détournant les ordinateurs. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la liquidation, donc les ludites, hein, les ouvriers qui détruisaient les usines et les machines. On ne souhaite pas leur avènement, on va tout faire pour qu'ils ne se matérialisent pas. Et puis, de l'autre côté, il y a détournant, c'est-à-dire en fait le courant hacker, le courant pirate.
D'accord.
Donc, on va détourner à notre profit la libération, les outils des dominants. Et on a les deux.
D'accord. Alors, il reste une minute, donc je vous pose la question assez rapidement, mais vous venez de sortir un livre qui s'appelle « La ruée minière au XXIe siècle ». Je me suis dit, bon, ça n'a pas de rapport avec notre sujet, bien que, si je ne m'abuse, notamment pour faire fabriquer des piles, des rechargeurs, on extrait du lithium. Est-ce qu'on y a un parallèle? Est-ce qu'il y a une connexion avec ce qu'on vient de dire avant?
L'informatisation est au cœur de la ruée minière depuis ce début. Elle est fondée sur une utilisation inégalée dans l'histoire de l'humanité de métaux divers et extrêmement raffinés. Pour faire de l'électronique, il faut du cuivre raffiné, non pas à 99%, mais à 99,9999%. Et c'est le cas avec des dizaines d'autres substances. Et c'est quelque chose qui est vraiment un impensé du numérique, et bon, un peu moins aujourd'hui. Mais en fait, l'informatisation coïncide avec, par exemple, le pillage et la mise en place d'une économie de guerre en République démocratique du Congo depuis le début des années 2000. Oui. Fabien Lebrun l'a bien montré dans son livre. Moi, je suis tombée dans la mine en faisant l'histoire de l'informatique.
D'accord, bah écoutez, j'invite nos auditeurs à découvrir tout ça, à lire ce livre qui s'appelle « La ruée minière au XXIe siècle, enquête sur les métaux à l'ère de transition », signé Célia Isoar. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le clodo, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Frédéric Kiefer.